être venu pour vous présenter le dernier livre de François Persson, enfin quand je dis le dernier livre, pour l'entendre évidemment au sens plus récent, puisque j'en reçois comme une production éditoriale suivie, nourrie. Et donc, en l'occurrence, il s'agit effectivement de son livre intitulé « Entre l'un, carnet d'Algérie qui est à votre disposition, donc vous aurez l'occasion de le consulter, de le regarder. Je trouve qu'il est, donc je suis un peu partiel peut-être en disant ça en tant qu'éditeur, mais il est encore plus réussi que les autres, il est absolument magnifique. Donc voilà, je suis enchanté par ce nouveau livre, et qui est dû d'ailleurs aussi au talent d'Olivier, qui est très discret dans son titre, mais qui est voilà. C'est lui le graphiste et maître d'œuvre Jean-François de ce livre. Alors Jean-François, je ne vais pas dire qu'on ne présente plus, parce que ce serait aussi manquer à mes obligations. Mais en tout cas, Jean-François, je pense, commence à se faire une certaine notoriété, non pas à partir d'une discipline, mais plutôt à partir d'une démarche. Et dans démarche, il y a le mot marche, qu'affectionne tout particulièrement Jean-François. Et effectivement, ces livres, c'est ça, ce sont des trajets, ce sont des traversées, ce sont des pérégrinations. Les titres de ces livres, d'ailleurs, parlent d'eux-mêmes, hein, « Décide-moi un voyage »,« La danse de l'arpenteur »,« Entre le monde et soi », donc on voit effectivement où on se situe. Et en l'occurrence, donc, il s'agit, bon, pour ce dernier livre, d'un territoire, si je peux dire, d'un univers, qui est l'Algérie, mais ce n'est pas forcément des territoires dont il s'agit. Enfin, en tout cas, ce dont il rencontre, ce sont surtout des rencontres. Ce sont des moments, des lieux, des situations, des rencontres. Des façons d'être, avec soi, avec les autres. Alors ce livre est aussi peut-être un peu particulier, mais ça, je m'avance un petit peu, par rapport aux autres, en ce sens qu'on sent aussi qu'il résonne en quelque sorte deux voix. Vous savez, parce que je connais depuis un petit moment Frédéric et Jean-François, et donc déjà ils sont aussi dans mon esprit, dans leur travail, leur recherche. Mais dans ce livre aussi, il y a aussi ce lien avec l'Algérie, et évidemment un ancrage très particulier. Je vais peut-être commencer, puisqu'on a la chance d'avoir les auteurs présents. C'est pour les entendre que vous êtes venus, quoi, pour m'entendre moi. Donc je vais leur céder tout de suite la parole, peut-être en leur posant, s'ils veulent bien répondre à cette question, qui est tout à fait une sorte d'entrée en matière. Donc qu'est-ce qu'il en est finalement de cette dualité, ou ces deux voix peut-être, ou cette résonance en tout cas dans ce livre? Puisque vous venez porter le livre ensemble, c'est vrai. Voilà.
Ouais, moi je peux commencer.
Et du coup, je rejoins le.
Ouais. Donc, parce que moi je ne suis pas l'auteur du livre, bien sûr, c'est Jean-François qui est l'auteur. Et je pense que quand tu parles de voix, pour moi, quand je lis le livre ou quand j'ai entendu parler du projet par Jean-François, c'était plutôt d'autres voix qui n'étaient pas forcément la mienne, pas du tout. Mais je pense que ça pouvait être un point de départ dans une manière d'évoquer des imaginaires, mes imaginaires, ou ceux que j'avais reçus, ou ceux que j'avais entendus, que ce soit par des personnes, des proches, ou des personnes que j'avais pu rencontrer, ou alors des livres, en fait, à travers le mot, que ce soit la poésie, des essais, au cinéma, etc. Et donc tout ça nourrissait. Et peut-être qu'effectivement, dans une vie au quotidien, il y a des choses qui s'échangent d'imaginaire, d'idées, d'envie. Et c'est pour ça que je ne suis pas du tout l'auteur, mais plutôt, ça aurait pu être moi, ça peut être quelqu'un d'autre. Je pense que le livre est ouvert et je pense qu'en le lisant, vous allez peut-être aussi reconnaître des voix ou des choses qui vous intéressent, ou des voyages que vous avez pu avoir envie de faire ou pas, soit des voyages dans la chambre, ou bien des voyages dans des territoires proches ou lointains. Je ne suis pas du tout l'auteur, et j'ai été plutôt une compagne de voyage, Et ce voyage, je crois que j'avais très envie de le faire, moi, depuis très longtemps. Et puis, bah, la rencontre avec Jean-François fait que ce voyage, un voyage, en tout cas, un voyage concret vers l'Algérie, c'est fait, mais je ne suis pas l'auteur. Voilà.
Bien, alors, je vais répondre à ta question, Daniel, mais moi, je voulais d'abord te remercier en tant qu'éditeur, parce que c'est précieux pour un auteur d'avoir un éditeur qui suit le travail et puis qui voit ça avec confiance, enthousiasme, quand un projet l'intéresse. Et puis évidemment, remercier Olivier, c'est le quatrième livre qu'on a la chance de faire ensemble. C'est vraiment un travail qui se peaufine. En général, on prend assez longtemps. Et puis remercier Frédéric parce que non seulement elle peut corriger un texte, mais surtout elle a un regard qui m'interpelle et elle a, avec son regard, vu plusieurs fois le texte et ça lui a donné plus de qualité. Alors peut-être présenter quand même le voyage et le livre. C'est vrai que le voyage... Tu veux pas une chaise ?
Non, ça va.
Le voyage s'est fait en entendant souvent Frédéric parler de l'Algérie puisque sa mère y était née. Et donc une histoire familiale qui était attachée à l'Algérie. Par cette histoire familiale, elle avait aussi beaucoup lu. Et donc, sans y aller, elle en parlait. Et donc, un jour où on se trouvait près d'Almeria, on a vu des bateaux, on s'est dit qu'il y a un rang, on n'est pas loin. On pourrait quand même aller un jour confronter ton histoire, tes lectures au terrain. Et donc, il y a cette photo-là qui se trouve dans le livre, Essi Oran. Donc, Essi Oran, c'est une espèce d'interrogation, mais aussi une invitation si cette fois on y allait. Quoi. Et quelques mois plus tard, ben, on est parti pour l'Algérie. Alors, le premier voyage s'est fait autour de différents lieux où la maman de Frédéric avait vécu, et puis aussi des lieux de découverte de la ville d'Alger, et puis une conférence à Alger. Et puis là, j'avais pris des contacts avec l'école des Beaux-Arts, qui m'ont invité l'année après à faire un workshop. Et donc, j'y suis allé, Frédéric m'a rejoint, et donc ça fait un second voyage. Et comme pour la plupart de mes voyages, il n'y a pas de projet. Il y a le voyage et le projet. Et puis, on a fait un voyage en Inde en 2014, en 2013, en décembre, en 2013. Et 15 jours après, dans la foulée d'une traite, j'ai écrit un prologue à Entre-là. Et ce prologue me disait donc que j'allais écrire, continuer sans vraiment avoir de projet sur le livre lui-même. Et donc il s'est construit d'abord avec les carnets, en suivant un peu le parcours géographique, les découvertes du territoire, certaines personnes, mais dans le temps entre les voyages et l'écriture, il y a eu plusieurs lectures que j'ai découvertes, que Frédéric m'a passées, des films qu'on a vus ensemble, notamment de Jonas Mekas, de Pasolini. Et comme il s'agit entre là aussi du déplacement des personnes, qu'entre les deux voyages, il y avait une exposition Pasolini et Mekas à Marseille. Donc plusieurs voix sont venues s'entrelacer dans le livre. Notamment celle de Véronique Naumkrab, qui est anthropologue, qui a écrit la préface de La danse de l'Arpenteur, et qui a travaillé avec le photographe Marc Pateau pendant 3 ans à Douchy-les-Mines. Douchy-les-Mines, c'est une petite ville pas loin de Valenciennes. Il se fait que Douchy-les-Mines, c'est aussi la ville où Frédéric a vécu, où ses parents ont vécu. Et donc il y a un entre-là pour moi de à la fois une constellation de lieux et de personnes dans ce livre. Alors, ce que je vous propose, on va lire chacun deux textes pour non seulement vous donner l'envie d'acheter le livre, mais surtout de le lire. De le lire. Parce que c'est. Oui, ça me ferait plaisir que vous le lisiez. Donc, pour ça, vous n'êtes même pas obligé de l'acheter parce qu'il était à la bibliothèque XL. Donc, vous avez bien compris que ça, ce n'est pas une exposition, hein, c'est simplement quelques éléments qui font partie du livre qui pouvaient agrémenter la soirée. J'ajouterai que dans le livre, la manière dont on l'a mis en page avec Olivier, vous verrez qu'il y a une grande marge qui permet de citer des personnes, non pas comme une note en bas de page, mais de leur donner la place. Et de temps en temps, il y a même une photo de leur livre ou une référence. Alors, j'associe à cette soirée, évidemment, l'ACDAR, qui, vous verrez, est très très présent dans le livre. C'est un ami algérien qu'on a rencontré à Bruxelles, puis qu'on a rencontré à Oran, puis qui fait toujours la route pour essayer de trouver un pays d'Europe qui l'accueille, et que j'ai revu à Timmelkamm, en Autriche. Donc le premier texte fait référence à l'ACDAR. On est à Oran, le samedi 29 septembre 2012. Petit déjeuner, suivi d'une promenade vers le marché du plateau, qui s'étend dans les rues autour d'une grande place en long. Bain de foule et retour à l'hôtel, où l'ACDAR nous attend, assis au fond du hall étriqué. Dépliant souplement son extrême minceur, il vient à notre rencontre. Ses yeux souriants n'occultent pas la gravité qu'enferme sa belle tête. Il exprime une grande joie d'être là et nous nous embrassons chaleureusement. Très vite, nous reprenons le chemin vers la place du Maghreb et choisissons une terrasse pour boire un thé, étonnés de nous retrouver tous les trois à Oran, que l'ACDAR connaît, bien qu'il n'y soit plus venu depuis bientôt 15 ans. C'est de ce port qu'il est parti vers Marseille fin des années 90. Revenu à R, il y a quelques semaines, il exprime son désir de quitter le pays. Il détient déjà un visa turc. Le regard qu'il porte sur l'Algérie est très amer et laisse peu de place à de possibles ouvertures. Malgré la joie des retrouvailles, les liens familiaux restent affectés par l'éloignement prolongé. L'ACDAR est particulièrement dur vis-à-vis d'une partie de la population dont il regrette le manque d'éducation et de culture, la place importante qu'elle accorde à l'argent. Nous voudrions lui dire qu'il doit exister des voies de traverse, mais nous ne connaissons rien à ce pays, ni aux possibilités de s'y ancrer. Nous offrant d'anciennes cartes postales de R et un cadeau ramené du Sud, il décrit cette région et sa perception change. Les grands espaces, la lumière chaude, le silence, les astres qui brillent la nuit. Il aime y chasser la caille à cheval comme il aime y marcher. Il s'anime comme le ferait une personne heureuse d'habiter cette région. Nous parlons avec enthousiasme de la fête des dates qui débutera prochainement, nous donnant le nom de pigeons 7. Et de lapins d'eux qu'il possède déjà. Il vient également de faire, sans trop y croire, une demande pour obtenir un logement où il pourrait vivre seul. Ses propos ambivalents résultent du nécessaire et de l'impossible enracinement d'un homme, de son écartèlement entre des territoires, de son hypothétique déplacement vers un pays qui lui refusera l'accès.
Oran, dimanche 30 septembre 2012. Premier jour de la semaine algérienne. Matin de départ pour l'ACDAR vers R qui nous rappelle son désir d'ancrer sa vie en un lieu d'Europe. Comme un grand nombre de jeunes de ce pays, il partage le rêve de ce garçon, aperçu hier aux aguets au-dessus du port. Une vie de l'autre côté de l'eau. Ali aux yeux bleus, un des innombrables enfants d'enfants descendra d'Alger sur des barques, à voile et à rame. Il y aura avec lui des milliers d'hommes, aux corps malingres et aux yeux de pauvres chiens de leur père, sur les barques lancées dans les royaumes de la faim. Pasolini.
Sidi Bel Abbès, vendredi 5 octobre 2012. Le cimetière chrétien de Sidi Bel Abbès est le plus grand d'Algérie. Par respect des morts, pour le logement et peut-être une maigre solde, un gardien entretient quelques allées nécessaires au passage d'un hypothétique visiteur et de la délégation annuelle. Il habite une petite maison avec sa femme tout en noir et leurs jeunes enfants. Abandonnant sa tâche dans la cour, il nous entraîne dans une visite, contrarié par les détours de Frédéric dans des allées cachées, entre les végétaux débordants et les tombes penchées. Ses enfants courent partout, c'est leur terrain de jeu, ils en profitent. Ce soir, ils poseront peut-être les mêmes questions que les jours précédents sur l'espace particulier où ils habitent et jouent. L'entrée du cimetière juif se trouve à deux rues. La porte ne s'ouvre qu'après de nombreux coups répétés. La visite est possible. L'allée centrale est peu accueillante, les tombes sont modestes. Beaucoup d'arbres ont été coupés, les autres sont mal en point. Toute l'atmosphère se densifie à l'entrée. Une petite friche entourée de deux bâtiments, des arbres d'espèces variées, des feuilles de palmiers en tas secs, un berger allemand attaché, quatre tombes enfouies dans l'herbe rousse. Cet espace ravive le souvenir du cimetière juif de Naples, fermé, mais se découvrant tel un jardin luxuriant à travers la grille. D'autres encore, présents dans les villes explorées, comme à Gênes, le cimetière monumental de Staglieno, divisé en quartiers spécifiques, échelonné sur le relief en pente. Je me souviens surtout de l'allée d'arbres courbés, de son odeur de mousse, de la volée de marches qui débouche sur la grande terrasse, un plan d'herbe entouré d'un rang de tombes et de vieux arbres, une large trouée vers le ciel, le corps qui respire l'espace et l'arpente. Poursuivant ce qui lui est offert en ce lieu, prenant l'une des deux rampes très larges qui montent vers un sous-bois, puis l'un de ses chemins, végétaux en décomposition, pousses naissantes, pierres rongées, quelques noms de personnes, des dates, une photographie parfois. C'est ce que nous cherchons, des jardins des morts qui peuvent être aussi nôtres pour le temps d'un passage et le goût qui en restera. Là où sur des vies arrêtées, une autre a pris le dessus, brassant les pierres dressées, cassées, tombées, les mousses et leurs odeurs, les lichens, plantes variées, fleurs fanées, petits coins soignés, arbres infiltrés, mains qui grattent la terre, famille en pique-nique. Cette tristesse de savoir mon père et la grand-mère de Frédéric, enterrés dans une allée froide, sans vie, des cimetières de Belgrade et de Douchilémy. Là où la pierre est lisse, les rangs serrés, droits, sans aucune place pour les mousses, éboulements, branches tombantes. L'œuvre du temps, alors sur quelle aspérité tisser un lien avec l'être aimé, avec soi, avec le monde. Proche des deux cimetières, le quartier anciennement nommé El Graba se love dans un méandre de la Mekera. C'est le nom donné à un village nègre et plus largement un village arabe de colonisation. El Graba est un pluriel de Gourbi qui se définit comme une habitation sommaire en Afrique du Nord, mais désigne aussi de manière péjorative un taudis. Le glissement qu'opère la langue en transformant le sommaire en misérable ne fait que suivre celui du regard sur les habitats bricolés, les cabanes en tout genre, les tentes éphémères, sans sanitaire, sans accès à l'eau et à l'électricité. À la lisière de ce quartier apparaît une large zone arasée, une démolition récente dont le but ne peut se deviner, ne reste que la terre. Bien que modeste, constituée de maisons basses, l'habitat voisin ne mérite pourtant pas d'être renversé. Les rues sont calmes, le micro du muezzin résonne au loin, les quelques commerces du quartier sont fermés, la boulangerie, non. La grande salle est accueillante et déserte. Une jeune fille nous sert le thé à la menthe, accompagnée de gâteaux. Elle sourit, mais peut-être était-elle d'eux et riait-elle ouvertement de notre présence. La surprise du lieu, la grande salle carrée, les tables et les chaises vides, nos mains au-dessus du thé et des petits gâteaux, le mouvement des pas, leur résonance, le sourire ou les rires, crée un moment qui dépose doucement son empreinte.
Hélène Sixou. Hier, j'ai dit que j'irais peut-être à Alger. Je ne sais pas pourquoi j'ai avancé cette phrase vers ma mère à ce moment-là. Ce n'était qu'une phrase. J'essayais l'hypothèse. Il se peut que j'ai voulu en éprouver la résistance à la réalité, la faire sortir de l'abri de la fiction. Il y a maintenant 35 ans que tantôt je ne pense pas du tout aller en Algérie, je n'y pense même pas, je ne fais pas d'effort, me dis-je. Je ne me souviens pas en avoir d'abord eu la pensée pour ensuite la repousser. Quand je pense à la tension qui m'occupait tout le corps lorsque je vivais en Algérie, avec la sensation insupportable de ne jamais me trouver dedans, mais comme plaquée à l'intérieur du dedans, comme une chenille empêchée de métamorphose. Je pensais en Algérie à l'Algérie. Je voulais tellement l'atteindre. Seulement un mur de 5 mètres m'en séparait. Je passais ma vie à chercher l'entrée du dedans, sur la paroi extérieure invisible duquel j'étais agrippée. Cette tension qui était tout mon être a totalement disparu. C'est dans si près.
Voilà. Non, mais c'est une belle invitation en tout cas à la lecture. Et c'est vrai que les territoires que j'ai partout, c'est aussi les territoires du livre, du film, enfin, de l'imaginaire. Peut-être un petit mot sur. Tu as bien précisé que ce n'est pas une exposition, oui. C'était juste des jalons, des repères. Tu veux peut-être dire un petit mot sur justement ce.
Donc il y a la petite fabrication d'une boîte à livres, d'un présentoir de livres, dans lequel il y a des livres, des films qui sont. Repris entre là, qui m'ont en tout cas nourri. Et puis la photo là, de cet arc qui sort du coin, je trouve ça assez extraordinaire. On visite en général un grand nombre de cimetières quand on voyage. Et là, dans ce cimetière musulman, il y a beaucoup de tombes qui sont ouvertes au centre, donc c'est comme un petit jardin. Et là, on a un jasmin bien vivant. Alors, sur le bois, là, il y a 3-4 postales. Il en existe toute une série de cartes postales de cette sculpture qui porte différents noms, suivant ce que vous les citez. Donc, le nom exact, c'est La Caresse. C'est un marque de Ludovic Durand, qui a été fait vers 1895. Mais aussi elle a pour titre La Kermesse, ou La Caresse du Faune, ou La Nymphe et le Faune, ou simplement, comme ici, Statue. Et donc, sur la photo de gauche, la grande photo, il s'agit du socle sur lequel était cette sculpture. Alors, dans ce parc, il y a différentes sculptures, enfin, il y avait, parce qu'il n'y en a plus, différentes sculptures. Certaines ont été reprises par les Français quand ils ont quitté d'Algérie. Par exemple, il y a la même qui est dans le livre qui se trouve à Nantes. D'autres ont été cassées pendant la guerre et d'autres après la guerre. Donc il n'en reste plus. Et donc il y a le socle vide qui m'a fait penser évidemment au travail de très présent dans le socle. Je vais même envoyer une photo. Et la photo de droite, c'est dans le cimetière juif, le cimetière de la Messe. Alors vous avez ici deux photos. Là, c'est Essy Oran, l'habitation dont je vous parlais. Et ça, c'est la ferme, ce qu'on voit de la ferme où a vécu la famille de Frédéric. Et dans la vitrine récupérée d'une autre exposition, il y a une série de carnets.
Les carnets sont juste à exposer.
Oui, mais ouais. Juste.
Tu
veux
aussi un photo?
Ah oui, c'est une photo.
C'est
l'initiation de l'ancienne ville. Elle est à l'entrée parce que spatialement, elle a trouvé sa place là. Ceci, en fait, c'est un. On ne sait pas ce que c'est. Donc, on a photographié ce montage où il est marqué propriété privée dans la ville de Oran. Donc, c'est un quartier en démolition. Et à l'intérieur, quand même, il faut dire qu'il y avait une plante.
Ah oui.
Donc, est-ce que c'était pour protéger la plante? Est-ce que la plante verte faisait partie d'une installation? C'est le mystère le plus absolu. Mais c'est sculpturalement très, très parlant.
Le nom des propriétaires est inscrit, non?
Salem et Benamour. Mais est-ce que c'est le nom des propriétaires? On ne sait pas très bien. Enfin, il y a un numéro de téléphone, c'est vrai qu'on trouve le téléphone. Il est ici.
Bah, par exemple, c'est difficile d'engager la discussion sur le livre que vous n'avez pas encore l'occasion de
découvrir. Mais un peu se concentrer quand ils lisaient les passages. Chacun peut dire ce qu'on a senti, lisez vos passages. Moi, je n'ai pas de mots. J'étais avec, j'oublie toujours son nom. Comment il s'appelle?
Lada.
Oui. Je ne sais pas le souci qu'il a autour de ce voyage de ce garçon qui cherche un endroit pour se donner lieu, mais ce que vous avez comme relation avec lui, ça me paraît impossible à décrire. Je ne sais pas quel est l'endroit, je n'arrive pas à saisir. Et moi aussi, j'ai senti la même chose quand j'ai vu ses œuvres exposées. Tout ça, je trouvais que c'était un très puissant être. Mais est-ce que tu sens la même chose quand tu racontes sur lui? Tu sens qu'il a quelque chose?
C'est-à-dire que...
C'est son recherche que tu...
L'Agdar, je l'ai rencontré dans l'occupation de l'ULB. Ça fait déjà longtemps. Mais alors, il a participé à deux workshops que j'ai donnés au HAL, qui s'appelaient pour l'un « Cartographie de ma naissance » et l'autre... J'ai oublié le titre exact. Mais donc, c'est 12 personnes qui interviennent dans l'espace. Et je reprends la thématique de l'atelier dans... que j'ai donné à Alger aussi dans le livre Entre l'art, qui travaille dans l'espace sur l'idée du parcours et du lieu. Donc c'est des lieux et des chemins. Et donc c'est une installation à 12 personnes, où tout le monde a tout l'espace, mais on est quand même 12. Et donc, sans en dire plus, sauf si vous me posez des questions... L'Agdar était dans cet atelier, c'est vrai qu'il avait une production très très intense, et puis il a eu l'occasion de faire aussi un atelier avec Anne Mortio à Namur. Et donc, même dans un centre où il était, il a donné, enfin il a accompagné des personnes pour donner un workshop sur les traces de Jean-François. Donc c'est vrai qu'il a, au niveau du, oui, de la mise en forme sur papier ou en trois dimensions, il y a quelque chose. Il n'a pas du tout de formation, mais en même temps, c'est très très.
Mais c'est mutuel, apparemment. C'est une relation très écho, comme ça. Un qui va vers l'autre et qui va vers l'autre. Vous avez quelque chose de très intense, et je le sens. Et même les lieux de rencontre, de endroits où Frédéric et son aïeul ont vécu, ça te touche quelque part. Mm-hmm. Hein? Très fort. Mm-hmm. Moi, ça m'a ému. Je trouve ça très beau. J'ai pas d'autre mot.
Merci.
Sinon, il y a des petits gâteaux confectionnés par Frédéric et Jean-François. Ça peut aussi délier les langues et aiguiller les paroles.
Et ça fait référence au petit gâteau que vous avez reçu. Ouais.
Je sais, Dominique, que toi, tu te posais des questions sur cartographie de ma naissance.
Mais oui, je t'avais demandé qu'est-ce que c'est exactement. Alors,
moi,
je
réponds aussi parce que là, la fois dernière, je n'ai pas su répondre. Mais donc, parmi les workshops que je donne, il y en a plusieurs que j'ai donnés sur la thématique. Je vais oublier un moment cartographie de ma naissance, je ne sais pas pourquoi, mais sur parcours et lieu. Et donc, pourquoi cartographie de ma naissance, c'est parce que c'est l'idée que chacun est fait de différentes naissances dans lesquelles les parcours et les lieux ont énormément d'importance. Comme un des premiers que j'ai donné, c'est Waldus Scarbeck, et qu'il était donné pour un public large, avec des habitants qui avaient une expérience du parcours, comme l'Agdal, etc., assez forte, puis d'autres qui ont travaillé plus sur une fiction de leur famille. Donc c'était assez libre, mais le dispositif, c'est, pour moi, c'est 12 personnes, parce que c'est un chiffre qui est assez intéressant. C'est un très grand espace, le plus grand aussi, et un temps de 3 à 5 jours. Et donc, au départ, je donne quelque chose de très très précis, c'est-à-dire que je fais une marche dans la ville, puis on rentre dans l'espace, et je demande simplement de choisir un endroit de l'espace où on se sent en résonance avec l'espace, et on s'assied, et puis on regarde les autres, et donc si on n'est pas bien, on peut bouger. Mais si quelqu'un bouge, c'est ça qu'il faut prendre conscience, et dès que quelqu'un bouge, tout bouge. Et donc c'est un moment donné où tout le monde est assuré de l'ensemble, il se met dans une position repos. Je trace la forme du corps au repos dans l'espace, les personnes se retirent et ça forme ce que j'appelle une île, qui est le premier lieu. Et donc à partir de ce lieu, chacun trace un lien vers un autre lieu et puis encore un lien vers un autre lieu. Donc il y a au minimum trois lieux et deux parcours, au minimum. Mais peut le faire dans tout l'espace. Donc ça peut être des éléments éclatés, ça peut être des éléments réunis, mais chacun a l'entièreté de l'espace. Et donc, à partir de là, moi j'interviens très très peu. C'est-à-dire, je suis attentif, je regarde, je parle un peu, mais c'est chacun qui détermine son travail. Et donc, je me souviens que la première année, Waldus Scarbeck, jeune scénographe avait travaillé sur la ligne verte de Beyrouth, et donc c'était une ligne qui traversait quasi tout l'espace pour arriver à la mer. Il y a des photos là de la mer. Et puis une autre partait de la Sicile et avait fait un entrelac, donc elle avait construit des petits des petits ponts pour passer au-dessus de la ligne verte. En fait, c'est comment on fait pour, quand on a tout l'espace, mais 12 personnes ont tout l'espace pour se confronter. D'autres c'était plus replié vers le mur, enfin, il y avait différentes solutions. Et donc, moi là-dedans, qu'est-ce que je fais? Je mets un dispositif très très clair au point au début, que si on n'est pas là la première heure, on n'est pas là, on n'est plus jamais là. Mais après, c'est une liberté de chacun. Ce qu'on remarque, c'est que après 2 jours, on a l'impression que ça pourrait être presque jeté déjà, mais le fait qu'on a 5 jours, le travail devient beaucoup plus soigné, donc la pensée fonctionne. Et donc, il n'y a aucun but, sinon de donner l'occasion de faire un travail dans un espace où le rapport kinesthésique à l'espace et le rapport à la plastique est prépondérant. Est-ce que ça répond?
Par exemple, à partir du premier lieu, donc tu as dit les gens créent un autre lieu, vont vers un autre lieu. De quelle manière ils le dessinent autour d'eux?
Non. Alors, au niveau des matériaux, soit les personnes, ça dépend un peu des contextes, mais si c'est à Bruxelles et qu'ils habitent pas loin, ils amènent les choses. Ou des résidus de la ville. Donc c'est vraiment en 3 dimensions. Donc tu vois, là, il y a quelques photos, la ligne verte de Beyrouth, c'était fait avec notamment des cartons, avec des photos dessus, des fils de fer, quelqu'un qui avait tressé le parcours de sa famille à partir de 5 branches, c'était vraiment des cordes qui se tressaient les unes dans les autres. Donc c'est vraiment en 3 dimensions. Et moi, ce que je fais, c'est bouger un petit peu.